Elle est née d'une ferme tout en haut d'un rocher. Cette ville que j'ai tant aimée. Du lavoir à l'hiver, de l'église à l'été, les siècles s'enchaînaient.
Dans la traversée des espaces-temps qui vont amener l'enfant à l'état adulte, il y en a bien d'autres que l'école. L'espace scolaire lui-même changera quelque peu au fur et à mesure que l'enfant grandit. Nous avions posé comme a priori que s'il pouvait éventuellement rester unique, de la maternelle au lycée, il était préférable de distinguer plusieurs espaces successifs parce qu'au fur et à mesure que l'enfant se construit, sa proximité s'étend, ses intérêts et ses champs d'investigation s'étendent comme ses capacités de relations sociales. En même temps, si le lien affectif qui le relie à ses parents existe toujours, l'interdépendance, elle, diminue. L'autonomie s'agrandissant de l'adolescent lui confère et lui transfère aussi des pouvoirs sur sa propre vie. La séparation s'accentue, l'entité famille se modifie, comme tout système vivant, tout en restant fondé sur l'affect, l'interdépendance économique, voire juridique aujourd'hui. Il n'en reste pas moins que tout ce que nous avons vu à propos de la construction des langages dans l'école s'applique aussi à l'adolescent dans ce que nous continuerons d'appeler le collège et d'une autre façon au lycée, où cette fois l'enfant est devenu un jeune adulte. Ce doivent être d'abord des espaces de vie, conçus en fonction de la vie et s'auto-organisant de par cette vie. La complexification des langages, donnant accès au savoir, en étant une conséquence.
Et les filles riaient, et les hommes buvaient, la ville était adulte, et les arbres chantaient.
Mais dans le territoire de vie qui s'agrandit en même temps que l'enfant, il y a bien d'autres espaces. Les uns institutionnels, comme par exemple ce qui concerne les services de santé ou les services sociaux. Les autres émanant des collectivités ou communautés territoriales, comme les bibliothèques, les clubs sportifs, les centres de loisirs, etc. Ce que l'on appelle le tissu socio-culturel. Et il y a les interstices entre ces espaces. Les premiers, avec l'école, sont rarement en relation, constituent souvent des précarés. Là aussi, des précarés de pouvoir, qui s'ignorent ou qui rentrent en concurrence. Un territoire cognitif et social morcelé. Les pouvoirs qui s'y exercent sont très nombreux. Enseignants, éducateurs, dirigeants, entraîneurs, services de santé, travailleurs sociaux, policiers, architectes et urbanistes, administratifs, élus. Et de moins en moins, les pouvoirs des parents, qui restent cependant les seuls responsables affectifs, moraux, juridiques de leurs enfants. Les parents y ont pourtant un pouvoir important, celui du citoyen. Mais pour une grande majorité, soit ils l'oublient, soit ils s'en départissent, soit on les en écarte soigneusement ou subrepticement. Et pourtant, il y a bien des exemples où l'intégration des parents, des enfants, des adolescents et de la population à la conception d'un espace s'avère fructueuse. Je peux citer les exemples récents du collège de Clitède à Bordeaux ou celui de l'école de Monticello en Corse. Des espaces intégrés à la vie de tout un territoire. Mais il est vrai que cela demande du temps de concertation, des habitus d'écoute, de prendre en considération de multiples paramètres nouveaux, de changer de paradigme, en particulier de paradigme démocratique.
On y venait de Nantes les dimanches d'été, avant qu'elle ne soit grande, quand notre siècle est né.
Et puis il y a surtout les interstices entre ces espaces, ceux du temps, ceux de l'espace public. ceux que l'on ignore ou que l'on voudrait radicalement éliminer. Ceux où la vie sociale, dûment réglementée et contrôlée, n'existe pas. L'espace de l'enfant seul à la maison, l'espace de la rue, les seuls espaces libres qui deviennent des espaces sauvages, mortifères et dangereux, et même des espaces interdits. Bien sûr qu'il y aurait d'autres pouvoirs à exercer dans ces interstices que les pouvoirs coercitifs. Je ferai par exemple remarquer que si on se préoccupe à juste raison de la présence des handicapés dans l'urbanisation, on ignore qu'une grande partie de la population qui devra vivre la ville sera des enfants. Il s'agit alors d'exercer des pouvoirs sur les espaces, des pouvoirs pour les autres plus que des pouvoirs sur les autres. Il semble que ce ne serait que bon sens de rétablir la vie sociale dans l'espace public. Ce qui a été entrepris par quelques associations qui se réunissent dans ce qu'elles appellent le chantier de la pédagogie sociale. Son instigateur, Laurent Hoth, est parti de l'observation suivante. Il y avait bien à long jumeau de nombreux espaces institutionnels offerts aux enfants et adolescents et offrant de l'activité. Mais ceux qui en auraient eu le plus besoin n'y allaient pas. Au lieu de s'en étonner et de s'en offusquer comme tous les bien-pensants, Laurent Hoth est parti du constat que ce n'était pas d'activités encadrées et estampillées éducatives ou culturelles dont ces enfants avaient besoin, mais de rencontrer, de parler, d'être écouté et de créer, d'entreprendre leur faire avec d'autres, librement. Avec son association Intermed, ils ont investi l'espace public. Quelques adultes, bénévoles ou professionnels, on les appelle les éducateurs de rue, proposaient, sur une place, au coin d'une cité, sur un trottoir, des pôles prétextes où des enfants, adolescents et adultes pouvaient s'arrêter, parler et éventuellement rester, et éventuellement entreprendre. Des jeux sur une couverture, des livres, du matériel de peinture, des instruments de musique, qui n'étaient finalement que l'occasion de se retrouver avec d'autres, de rencontrer des adultes capables d'écouter, de s'intéresser. Des parents aussi s'y arrêtaient. Peu à peu, à partir de cela, une auto-organisation s'est constituée dans l'espace public sans avoir été prédéterminée à l'avance et productrice de réalisation jusqu'à la transformation d'un terrain vague en potager communautaire. Un lien social s'était naturellement constitué à partir d'une appropriation de l'espace investi. Et cela a permis l'émergence des richesses et des potentialités des enfants et de leurs familles, en particulier de celles dites en difficulté dans les espaces institutionnels. Mais il me faut bien rajouter que les 10 espaces institutionnels et ceux qui y ont un pouvoir ne voient pas d'un bon œil ce qui semble leur échapper, voire les concurrencer.
La ville était adulte et les arbres chantaient et nous semions les rues.
On se veut de plus en plus éducatif et le territoire et l'environnement deviennent de moins en moins éducatifs. On oublie que ce qui aboutit à la construction d'un enfant en adulte, donc en citoyen, ce sont toutes les interactions affectives, cognitives et sociales qui peuvent avoir lieu là où vit l'enfant. Un territoire qui ne constitue plus une véritable entité sociale, un système social vivant, est anti-éducatif. Et nous en voyons quotidiennement et malheureusement les effets dans une augmentation exponentielle impossible à juguler. Le problème est donc dans la liaison entre les espaces institués qui ne sont pas forcément à jeter au feu. En faire un écosystème éducatif. Chacun des systèmes qui le constituent devant avoir la caractéristique de système vivant, c'est-à-dire d'évoluer et de s'adapter. Les divers pouvoirs qui s'y exercent devant eux être concomitants pour transformer l'ensemble du territoire et non pas se renfermer sur leur seul espace. L'école traditionnelle se coupe et s'isole volontairement du territoire. L'école du troisième type doit à l'inverse être le fer de lance de cet écosystème. Non pas parce qu'elle y occuperait une position hiérarchique prépondérante, mais parce que d'une part c'est encore l'espace-temps le plus grand dans l'espace social, ensuite et surtout parce que son approche même de l'acte éducatif induit la nécessité d'un écosystème social. L'expérience de l'approche systémique dans l'espace scolaire a vocation à s'étendre dans tous les autres espaces.
Nous avons su apprendre aux enfants à rêver dans la ville qu'ils ont tant.